conférence privée par le père Philippe sur l'Apocalypse, le 10 mai 1988 à Rimont. Nous allons continuer de lire l'Apocalypse pour nous préparer à l'ascension. Puisque un jour, tout cela sera dans la lumière. Alors j'avais repris la dernière fois le chapitre 14, parce que ça me semblait important, comme ce sont des chapitres difficiles. Pas mauvais de les revoir plusieurs fois. Et je vis dans le ciel, chapitre 15, parce que je ne reviens pas sur la fureur, la cuve de la fureur de Dieu, la grande cuve de la fureur de Dieu. Voyez bien, c'est assez net comment l'évangile de Jean nous montre comment à la croix, le prince de ce monde est jeté bas. Et comment, au retour du Christ, le prince de ce monde est jeté bas. C'est une espèce de dévoilement très profond qui se fait pour qu'on soit en présence de l'œuvre de Dieu et que tout ce qui n'est pas l'œuvre de Dieu, qui par le fait même est temporel, tombe et disparaisse. Et je vis dans le ciel un autre signe. Donc c'est le troisième, si nous comptons. Grand et merveilleux, cet ange ayant sept plaies, les ultimes, donc les plaies d'Égypte. Vous voyez, là encore, des parallélismes du point de départ et du terme. Car c'est par elle que s'est achevée la fureur de Dieu. Oui, si on comprenait ça un peu matériellement, on comprendrait qu'il y a une espèce de fureur de Dieu, de colère de Dieu. C'est pour ça que certains disent que l'Apocalypse, c'est encore l'Ancien Testament, et c'est pas tout à fait le Nouveau, et que c'est pas tout à fait vraiment la Nouvelle Alliance. C'est faux. C'est la Nouvelle Alliance. Mais toujours, ce qu'on oublie de trop, c'est que plus la miséricorde de Dieu est grande, plus la justice est présente. Toutes les œuvres de Dieu impliquent miséricorde et justice. On sait bien ça. Si Dieu nous fait très grande miséricorde, et il en fait, Dieu réclamera beaucoup de nous. Il ne peut pas être autrement. C'est pour ça que ce n'est pas mauvais de relire l'Apocalypse pour nous rappeler ce mystère de la justice de Dieu. Et c'est évidemment au terme que nous voyons éclater cette justice liée au jugement, liée au discernement. Et je vis dans le ciel un autre signe grand et merveilleux. Vous voyez, il y a donc le dragon et la femme, et cet autre signe, qui est quelque chose d'ultime. Et je crois qu'il faut unir les signes, parce que les signes nous donnent la signification des luttes. C'est le mystère des luttes qui nous est montré par ces signes, dont la signification est montrée par ces signes. Cet ange ayant sept plaies, les ultimes, car c'est par elle que s'est achevée la fureur de Dieu. Et je vis comme une mer vitrifiée, mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, et de son image, et du chiffre de son nom, debout sur la mer vitrifiée, ayant les cithares de Dieu. Alors, toujours cette mère vitrifiée, est-ce que c'est le mystère de l'Immaculée Conception qui nous est présenté là, comme en face du trône? C'est possible. C'est pas du tout impossible, ça. C'est normal que le mystère de Marie réapparaisse là. Et il y a la femme, c'est celle qui lutte. Et la mère vitrifiée, c'est le grand symbolisme de la victoire. Toujours ce langage symbolique qui nous déroute, forcément, et qui nous donne de multiples façons la même réalité, vue sous des aspects différents. La réalité de la femme, c'est celle qui est notre sœur et qui lutte. Et qui lutte pour nous. Et au contraire, ici, je vis comme une mère vitrifiée mêlée de feu. Et les vainqueurs de la bête et de son image et du chiffre de son nom, debout sur la mer vitrifiée, ayant les cithares de Dieu. Donc, c'est bien, il s'agit bien des vainqueurs, et celle qui est la première dans cette victoire, c'est Marie. Et il chante le cantique de Moïse, l'esclave de Dieu, le cantique de l'agneau, disant, grande et merveille tes œuvres, Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, juste et véridique tes voies, roi des nations, qui ne te craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, car toutes les nations arriveront et se prosterneront devant toi, car tes jugements se sont manifestés. Le grand cantique, la grande victoire de Dieu, de la grande victoire ultime et dernière. Vous voyez que c'est tout de suite ce qu'on montre. On montre tout de suite ceux qui sont les victorieux. Ce côté très positif qu'on voit tout le temps dans l'Apocalypse. Après cela, je vis, et le sanctuaire de la tente du témoignage s'ouvrit dans le ciel, et les sept anges, qui ont les sept plaies, sortirent du sanctuaire, vêtus d'un lin pur, splendide et saint à la poitrine de ceinture d'or. Oui, c'est très curieux, parce que ces anges ont le symbolisme du sacerdoce. C'est pour ça que je crois que toujours, les anges, c'est quand même les envoyés. Et je vis le sanctuaire de la tente du témoignage s'ouvrit dans le ciel. Et les sept anges qui ont les sept plaies sortirent du sanctuaire. Ils sont très proches de Marie. Vêtus d'un lin pur, ça c'est toujours le signe du sacerdoce, splendide et saint à la poitrine de ceinture d'or. Sacerdoce royal des fidèles aussi bien que, et avant tout ici, sacerdoce royal des fidèles. Et l'un des quatre vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la fureur du Dieu qui vit pour les éternités d'éternité. Donc il y a les plaies et il y a les coupes. et les coupes d'or, pleines de la fureur du Dieu qui vit pour les éternités d'éternité. Alors, quels sont ces sept anges mystérieux? Évidemment, c'est le chiffre parfait. Alors, on peut dire que ce n'est pas nécessairement sept. Est-ce que c'est les apôtres des derniers temps? Dans la lumière de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort? Très possible. Ce sont ceux-là qui sont liés d'une façon particulière à Marie et à Jésus et à son sacerdoce. Et sacerdoce royal des fidèles, vous voyez. Je pose la question. C'est difficile d'affirmer. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un rôle très particulier dans ce mystère ultime et dernier. Et le sanctuaire se remplit d'une fumée qui sort de la gloire de Dieu et de sa puissance. Ici, c'est une fumée qui sort de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait pénétrer dans le sanctuaire jusqu'à ce que fussent achevés les sept plaies des sept anges. Donc il y a un temps de purification dernier. C'est bien dans la purification dernière, les plaies comme les ultimes corrections de Dieu. C'est les ultimes corrections de Dieu pour faire que ceux qui reçoivent ces corrections, en eux, se fassent le partage de ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. C'est difficile pour nous de faire cette distinction et ce partage. Nous baptisons si facilement nos désirs comme des choses saintes. Il y a un moment où le discernement doit se faire. Même notre conception de la vie religieuse, vous voyez. Pour les chrétiens, la conception du mariage. Rien, il y a une ultime, ça on ne peut pas nier, c'est l'ultime purification. Et qui se fait juste avant qu'on puisse pénétrer dans le sanctuaire. Et j'entendis une voix forte venant du sanctuaire qui disait aux sept anges, allez et versez sur la terre les sept coupes de la fureur de Dieu. Les ultimes corrections. Vous allez voir, parce que c'est encore très symbolique. Est bien difficile à bien saisir. Et le premier s'en alla, et il versa sa coupe sur la terre, et il eut un ulcère mauvais et pernicieux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui se prosternaient devant son image. Voyez, Dieu qui punit pour purifier. Qu'on comprenne qu'il y a des fausses alliances. Aujourd'hui, le nombre de fausses alliances, hein, c'est affolant. Et pour nous aussi, c'est pas uniquement pour les autres. On est tous dans le même sac. Des fausses alliances constantes. Confusion entre nos désirs et les volontés de Dieu. Il y a des confusions grosses qu'on voit tout de suite. Il y a des confusions d'une subtilité étonnante. On croit faire la volonté de Dieu. Alors, Dieu qui nous aime ne veut pas que nous allions jusqu'au bout comme ça. Et alors il y a une correction très particulière. La première, c'est donc, il y eut un ulcère mauvais, pernicieux, un ulcère pernicieux sur les hommes, qui avait la marque de la bête, donc qui était lié à la bête, qui avait fait l'alliance avec elle. Et sur ceux qui se prosternaient devant son image. Chasser toute idolâtrie. Supprimer toute idolâtrie. Et c'est la coupe qui est versée sur la terre. La terre, c'est le corps. Et il eut un ulcère mauvais et pernicieux. Et le deuxième versa sa coupe sur la mer. Et il eut du sang, comme d'un mort. Et tout être vivant qui était dans la mer mourut. La mer qui était le lieu normal de la vie, puisque la vie ne peut pas se réaliser sans l'eau. Et la mer est le lieu normal, eh bien, contamination de ce milieu, contamination du milieu de la terre, du milieu de l'eau, de la mer. Il y eut du sang comme d'un mort. Et tout être vivant qui était dans la mer mourut. Et le troisième versa sa coupe sur les fleuves et les sources d'eau. Et il y eut du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste celui qui est et celui qui était, toi le saint d'avoir exercé ces jugements, car ils ont versé le sang de saints et de prophètes, et c'est du sang que tu leur as donné à boire, et le mérite. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, véridique et juste et jugement. Et j'entendis l'autel qui disait, alors est-ce que l'autel s'est marié là aussi, sous un autre aspect? Est-ce que l'autel, c'est tous ceux qui vivent le mystère de la compassion? Oui, Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, véridique et juste des jugements. Vous voyez qu'on est devant cette ultime purification qui prend, là encore, les éléments en se servant de cela pour nous donner un sens symbolique de ces purifications. Sens véritable, profond, ces purifications. Je n'ai pas trop l'explication immédiate. Hein. Un ulcère pernicieux, le cancer, ça y est, on voit très bien. Faire attention. Faire attention de ne pas, voyez, de pas matérialiser l'apocalypse. Il y a quelque chose comme ça, c'est évident. Il y a des maladies qui nouvelles qui s'étendent. Il y a la terre, la mer. Là, on voit très bien la différence. Vous voyez, le point de vue de la terre, on est atteint de l'intérieur, une espèce de contamination. Et la mer, c'est le milieu. Les fleuves et sources d'eau, il y a du sang. L'eau changée en sang. Pour montrer justement comment Dieu comment Jésus veut tout transformer dans notre vie. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, donc alors la proclamation de la royauté absolue de Dieu. Tu es juste, celui qui est, celui qui était, toi le saint, d'avoir exercé ces jugements. Car ils ont versé le sang de saints et de prophètes, et c'est du sang que tu leur as donné à boire. Vous voyez, cette espèce de justice immanente. Ils ont versé le sang des prophètes, alors ils auront le sang à boire. Parce qu'ils ont versé le sang des prophètes, on pourrait dire que les prophètes vont prier pour eux, pour qu'ils soient justifiés. Eh bien non. Au contraire, la colère de Dieu qui s'élève contre eux. Car ils ont versé le sang de saints et de prophètes, et c'est du sang que tu leur as donné à boire. Ils le méritent. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, véridique et juste. Et le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Ce qu'on dit aujourd'hui, n'est-ce pas ? Certains aspects de l'atmosphère très curieux qui font que le soleil chauffe dans certains endroits, certains moments, d'une façon qui n'est plus tout à fait normale. Ça, c'est matériel, vous comprenez ? C'est pas exclu. Mais je crois que c'est d'abord un langage spirituel. D'abord. Donc le soleil, c'est toujours le Christ. Il fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés d'une grande brûlure. Ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a le pouvoir sur ses plaies, et ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Donc c'est donné comme les plaies d'Égypte, vous voyez, c'est assez net, il y a le parallélisme assez grand. Mais le pharaon est plus difficile à atteindre. Il est plus anonyme. C'est plus ses idéologies. C'est vrai, qui s'incarnent dans certains individus, c'est évident. Mais c'est quand même beaucoup plus difficile à atteindre. Plus répandu partout. Et ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Et le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume devint enténébré. Et les hommes se mâchèrent la langue de douleur. Ils blasphémèrent le nom du... Ils blasphémèrent le Dieu du ciel pour leur douleur et leur ulcère, et ne se repentirent pas de leurs œuvres. Et le sixième versa sa coupe sur le fleuve, le grand fleuve Euphrate, et l'eau du fleuve se dessécha pour que fût prêt le chemin des rois du soleil levant. Encore, c'est très mystérieux, c'est Et c'est net, c'est que c'est quelque chose de dernier, d'ultime. Ça me semble très, très net et en parallèle avec les plaies d'Égypte. Alors, spirituellement, essayez de comprendre ce que ça veut dire. C'est tout l'aspect spirituel, je crois, qui nous est montré, qui est comme contaminé. Il n'y a plus de lieu où l'on peut être à l'abri. Il n'y en a plus. Et ça explique, du reste, cette sorte d'angoisse universelle des hommes. On a besoin d'abri. On a besoin de lieux où ça n'existe plus. Je crois que c'est ça qui provoque ces angoisses mystérieuses de jeunes qui ne savent pas très bien. Ils ne savent pas très bien pourquoi. Ils sont secoués. Ou ces suicides. Il n'y a plus d'abri, vous voyez. Si on ne découvre pas profondément le lieu de cette mer de cristal transformée par le feu qui nous donne un véritable abri, Marie, on est projeté de droite et de gauche. Et le sixième verse sa coupe sur le fleuve, le grand fleuve, Euphrate, et l'eau du fleuve se dessécha pour que fût prêt le chemin des rois, du soleil levant. On retrouve ce fameux chemin. Il montre bien qu'il y a quelque chose de mystérieux. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs, comme des grenouilles. Symboliser la grenouille, hein, c'est toujours quelque chose d'assez particulier. Et là, si vous voyez ça matériellement, vous voyez, c'est assez curieux. Mais il y a des choses comme ça, c'est le langage du démon. Il ne faut pas l'oublier. C'est des choses qui existent actuellement. Il y a un langage du démon comme ça. Des mots redoubles d'attaque et de façon beaucoup plus visible partout. Et je vis de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Mais les trois se rassemblent. Trois esprits impurs comme des grenouilles. Ce sont en effet des esprits de démons qui font des signes et s'en vont vers les rois du monde entier en vue de les rassembler pour la guerre du jour, du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Et il y a l'heure de Jésus, il y a le jour, le grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Je crois que nous pouvons saisir d'intelligible dans ces coupes, ces ultimes purifications de Dieu, que les hommes n'acceptent pas. Une sorte de matérialisme tellement puissant qu'on ne découvre plus les signes de Dieu. Parce que pouvoir découvrir les signes de Dieu, il faut déjà avoir quelque chose de spirituel en nous. Quand on est plongé dans un matérialisme très fort, on ne comprend absolument plus les signes de Dieu. Et c'est vrai, ça, on ne voit plus les signes de Dieu. On regarde les choses de façon positive. Et on veut tout expliquer par un point de vue humain, positif. C'est très difficile, je sais bien, il ne faut pas voir le démon partout, il ne faut pas voir son œuvre partout. Mais on sait qu'il existe. Et on sait que ses jours sont comptés. Et par le fait même, à la fin, on voit très bien sa fureur. Sa fureur qui se manifeste. Je crois que c'est ça qui nous est montré. Donc, il y a d'une part Dieu qui purifie et d'autre part le démon dans ses ultimes attaques. Et ça me semble clair. Le détail plus difficile, pourra le regarder une fois. Je crois qu'il faut d'abord avancer, puis on reviendra sur certains aspects. Mais ça me semble assez net, ça. Parce que je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche des faux prophètes, trois esprits impurs comme des grenouilles. Alors les trois esprits impurs, c'est évident que ça correspond aux trois concupiscences. C'est sûr, ça vient du démon pour éveiller davantage nos concupiscences, nos complicités. Il les connaît. Mais on les voit bien, ces esprits impurs, l'esprit impur charnel, c'est sûr, l'esprit impur de grosse vanité, l'esprit impur d'orgueil, ce sont trois esprits impurs. Et vous voyez, c'est très curieux parce que c'est la stratégie du démon qui est là. Et ces esprits qui trouvent des complicités en nous viennent. Des trois, cette fausse trinité. Et là, on voit bien cette fausse trinité. Le dragon, la bête de la mer et la bête de la terre. C'est une sport à la fois anti-trinitaire et anti-église. C'est assez net, je crois, de comprendre ces oppositions. Alors, ces esprits impurs, comme des grenouilles. Donc, une manifestation, une espèce de, je ne dis pas d'incarnation de ces esprits impurs, mais une manifestation de ces esprits impurs à travers ce symbolisme des grenouilles. Ce sont en effet des esprits de démons qui font des signes. Et s'en vont vers les rois du monde entier en vue de les rassembler pour la guerre du jour, du grand jour de Dieu le Tout-Puissant. Il va les rassembler, les reprendre tous. Ils font des signes, de faux miracles. Alors les rois, c'est pas les rois, il n'y en a pas beaucoup actuellement, donc ce serait une petite guerre. Mais ça veut dire tout simplement ceux qui ont la domination. Les rois du monde entier. Voici que je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, de peur de marcher nu. Et de laisser voir sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Oui, donc ça c'est l'ultime rassemblement. Alors, comprenez bien, c'est pas une guerre visible. Il peut y avoir une guerre visible. Je crois que c'est toutes les idéologies, c'est tout l'athéisme qui se renforce, qui s'unit tous. Alors, et le septième versa sa coupe dans l'air. Et du sanctuaire d'auprès du trône, il sortit une voix forte qui disait « C'en est fait ». Il y eut des éclairs, des voix et des tonnerres. Ça, c'est la fin. C'est l'Esprit Saint, oui. Je ne dis pas que c'est la Pentecôte d'amour, mais c'est une Pentecôte assez particulière. Il y eut des éclairs, des voix et des tonnerres. Triple aspect sous l'Esprit Saint se manifeste. un aspect de, je ne dis pas de mission visible, mais presque. Et il y eut une grande secousse, telle qu'il n'y en a pas eu depuis que l'homme apparut sur la terre. Une pareille secousse aussi grande. Donc un grand tremblement de terre, une grande secousse. Un signe, ça fait partie de ces signes mystérieux qui annoncent la fin. Et de Babylone, la grande, on se souvint devant Dieu pour qu'il lui donne la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et toute île s'enfuit et on ne trouva plus de montagne. Et une forte grêle, comme des grelons pesant un talon, s'abat du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu pour cette plaie de grêle, car grande est cette plaie extrêmement. Toujours, ils continuent de rien comprendre et de blasphémer Dieu. Et vint un des sept anges qui avait les sept coupes. Il parla avec moi. Très bien, quand Jean a un ange pour lui expliquer, faire l'herméneutique, ça va très bien. Mais c'est très beau, parce que c'est... Jean veut nous demander aussi, il fait ça pour nous inviter à demander conseil au Très-Haut et aux anges. Il parle avec moi disant, ici, je te montre le jugement de la grande prostituée. Qui est assise, sur les grandes eaux, avec laquelle se sont prostitués les rois de la terre, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution. Et il m'emporta en esprit au désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms blasphématoires, ayant sept têtes et 10 cornes. Mais comme la bête de la mer, il y a une identification de deux. La bête de la mer s'identifie dans son œuvre propre, qui est cette Babylone, qui est cette femme, assise sur une bête écarlate, pleine de noms blasphématoires, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et toute dorée d'or, et de pierres précieuses, et de perles. Elle avait dans sa main une coupe d'or, pleine d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Et sur son front, un nom écrit, un mystère. Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Comprenez toujours prostitution? C'est avant tout et en premier lieu l'idolâtrie. Toujours. C'est l'idolâtrie. Détournement le plus foncier, c'est l'idolâtrie. C'est pour ça que l'Apocalypse parle tellement de l'adoration. La fidélité, elle est dans l'adoration. Quelqu'un qui adore toujours 7 fois par jour demeure fidèle. L'adoration qui nous maintient dans la fidélité. Quand il n'y a plus l'adoration, alors à ce moment-là, on ne sait plus où on va. tellement important, ça. Et puis ça donne un axe. Puis ça m'empêche de faire des confusions trop grandes. Et je vis cette femme s'enivrer du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je m'étonnais d'un grand étonnement. Le vieux saint Jean, il en a vu beaucoup, mais n'a pas vu ça aussi. Ça, c'est quand même quelque chose d'ultime et dernier. C'est ce travail de la bête de la mer qui fait cette Babylone. C'est vrai, si on voyait ça, on devine la machination du démon, la marque de la bête. On devine tout ça. On voit bien tout ça. À travers tout et de plus en plus. Et ça commence à se manifester. Ça se voit, ça, c'est clair. Mais le jour où on verrait, vous voyez, à travers tout ça, la bête de la mer, s'enivrant du sang des saints, et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je m'étonnais d'un grand étonnement. C'est la fin, c'est le terme, ça se termine comme ça, juste avant la victoire, la grande victoire, il y a cette grande purification. Ce que les prophéties particulières appellent le châtiment. C'est ça. Ça annonce la fin. C'est les purifications de Dieu, les grandes purifications. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonner? Il en a vu d'autres, vous voyez. Ça, c'est merveilleux, cet ange. Pourquoi t'étonner? Moi, je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Celle qui a les sept têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. C'est très beau, ça. Ça, c'est le regard d'éternité contemplatif de l'ange. Toutes les œuvres du démon sont éphémères. Ça ne dure pas. L'éternité, c'est Dieu. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme, et elle est sa perte. Et ceux qui habitent sur la terre, et dont le nom ne se trouve pas écrit depuis la fondation du monde sur le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête de ce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Oui, ceux qui habitent sur la terre, donc c'est toujours ceux qui habitent sur la terre, c'est ceux qui se laissent séduire par la bête et dont le nom ne se trouve pas écrit depuis la fondation du monde sur le livre de vie. Oui, c'est toujours très délicat, ces choses-là. Quand de là, on pourrait tomber dans une espèce de fanatisme. Mon nom n'est pas écrit sur le livre de vie. Alors, il faut faire attention, comme interprétation. S'étonneront en voyant la bête de ce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Ici est l'intelligence qui a de la sagesse. Pour toute la partie qu'on a lue. Hein. Il faut invoquer le Saint-Esprit. Pour comprendre cette espèce de grande, cette ultime lutte. C'est ce jugement, ce discernement de Dieu. Les sept têtes sont les sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. l'orgueil, ça. Sept têtes sont les sept montagnes. Les montagnes. Jean-Baptiste vient supprimer les montagnes, aplanir toutes les montagnes pour le passage. Bien, c'est l'inverse ici. Pour que le Christ ne vienne pas dans sa gloire, c'est l'orgueil. L'orgueil que le démon met dans le cœur des hommes. Les sept têtes sont les sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés, l'un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il viendra, il doit demeurer peu. Et la bête qui était et n'est plus, est elle-même un huitième roi. Et elle est des sept et va à sa perte. La manifestation extérieure, hein, le roi et l'esprit et la bête qui était et n'est plus, est elle-même un huitième roi. Et elle est des sept, elle va à sa perte. Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois. Qui n'ont pas encore reçu la royauté, mais qui reçoivent pouvoir comme roi. Oui, l'autorité et le pouvoir. Hein. Mais qui reçoivent pouvoir comme roi pour une heure avec la bête. Et une heure apocalyptique. Hein. Ceux-là n'ont qu'un dessein. Ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Et ces alliances secrètes de la bête et de ses rois. Ils reçoivent pouvoir comme roi pour une heure avec la bête. Ceux-là n'ont qu'un dessein. Ils demeurent, ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ceux-là feront la guerre à l'agneau. Et l'agneau les vaincra, parce qu'il est seigneur des seigneurs et roi des rois. Ils vaincront ceux qui sont avec lui, appelés et élus et fidèles. Et il me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, ce sont des peuples et des foules et des nations, et des langues, et les dix cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostitution, et la rendront déserte et nue, et ils mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu, car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un seul dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que soit achevée la parole de Dieu. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Mais comme c'est curieux, ces symbolismes qui butent l'un contre l'autre. C'est très chaotique, extrêmement chaotique. C'est l'anarchie la plus extraordinaire. Et les choses impossibles, il y a presque. C'est vrai, c'est la brise de toute espèce de logique possible, de tout ordre de sagesse. C'est une description de cette Babylone. La Babylone, c'est l'œuvre, c'est la réalisation concrète, c'est l'antithèse de l'Église. Je crois que la Babylone, c'est l'antithèse de l'Église. Le démon cherche une Église avec des rites, avec des sacrements. Mais il cherche une Église. Une Église qu'il veut œcuménique, universelle. Et qu'il considère que l'Église du Christ demande d'être dépassée par cette Église particulière, qui est la Babylone. Mais c'est facile de mettre des noms, très bien. Aujourd'hui, c'est visible, c'est très visible, de voir cette espèce d'antithèse de l'Église, qui est persuadée d'être victorieuse. Et persuadée. Il faut de temps en temps entendre leur discours, c'est assez glacial. Parce qu'ils sont persuadés. L'œcuménisme de l'Église, non, il ne peut pas, c'est pas celui-là, c'est eux qui l'ont. De créer cette unité, de rassembler tout dans une unité pour battre, pour combattre l'agneau et les témoins de l'agneau. Ça, le but est très précis, mais exprès, c'est chaotique. Mais l'Église est hiérarchique, c'est visible, tandis que chez eux, non. L'œuvre des ténèbres, l'œuvre de la Babylone, c'est la Babylone. Et à ce point de vue-là, c'est quand même une description. Elle est révélée. Hein. Description assez étonnante. Tous les mélanges de tout. Et en fait, on voit très bien que la tactique du démon, c'est de nous maintenir dans la confusion. C'est de nous mettre dans la confusion. Parce que s'il n'y a rien de plus confus que ça. J'allais dire, c'est presque pas la peine de chercher les détails. C'est la confusion. C'est peut-être du reste le propre, vous voyez, des symbolismes du démon. Les symbolismes de Dieu ont tous une signification. Et les symbolismes qui viennent d'en bas, du démon. Est-ce que ce n'est pas... Ce qu'il faut saisir, c'est... C'est l'aspect synthétique de cette volonté du démon, de ce dessein qu'il a de faire la Babylone, la grande Babylone. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel avec un grand pouvoir. Et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix puissante, elle est tombée, Babylone la Grande. Il est devenu une demeure de démons et un repère pour tout esprit impur et un repère pour tout oiseau impur et détesté. Parce que toutes les nations ont bu du vin de sa furieuse prostitution et que les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et que les marchands de la terre se sont enrichis de la puissance de son luxe. Mais, maman, c'est la richesse. Tout y est l'orgueil, la richesse et la concupiscence. Et j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez de chez elle. Ô mon peuple. » Quand vous entendrez ça, hein, vous comprendrez. Sortez de chez elle, ô mon peuple, pour ne pas vous associer à ses péchés, pour ne pas recevoir de ses plaies, car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est rappelé ses injustices. Payez-la comme elle-même a payé. Rendez-lui au double, selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui le double. Autant elle a étalé de gloire et de luxe, autant donnez-lui de torture et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine et je ne suis pas veuve. Je ne verrai pas le deuil. Voilà pourquoi en un seul jour arriveront ces plaies, peste et deuil et famine, et qu'elle sera consumée par le feu, parce qu'il est puissant le Seigneur Dieu, qu'il la juge.